À l'occasion du 70e anniversaire de cet événement du 21 juin 1943, nous vous proposons ce jour la rediffusion d'une émission proposée initialement le 6 octobre 2008, qui offrait un éclairage qui reste très utile sur cette journée du 21 juin 1943. Nous remercions André Bonhomme qui a bien voulu dire pour cette émission le texte que nous avions écrit à partir de divers documents historiques. Il y a diverses raisons de s'intéresser au 21 juin 1943 et à son contexte, et de faire actuellement un point sur cette journée historique. D'abord, c'est l'arrestation de Jean Moulin, coordinateur de la résistance en zone sud pour le général de Gaulle, un homme qui avait déjà prouvé au début de la guerre son courage extraordinaire, la hauteur de son sens de l'humain, ainsi que son sens suraigu du service de la République et de l'État. Il l'a d'ailleurs payé très cher à ce moment-là, c'est à connaître aussi absolument le concernant. Et pourtant, il a peu de temps après pris à nouveau tous les risques face aux nazis. D'évidence, il était promis à un grand destin politique pour la France, qui s'est vu là brisé par la traîtrise d'un minable le 21 juin 1943. Ensuite, ces événements se sont déroulés à Lyon, en tous ces lieux que les Lyonnais fréquentent toujours, aussi quotidiennement, de la place Croix-Paquet au Brotteau, en passant par la place Lyautey, le cours Berthelot, la place Bellecour, la ficelle de la Croix-Rousse, etc., etc. Et puis, cette histoire est restée si longtemps brouillée par des intérêts politiques toujours actuels, que la mesure de la réalité historique n'a jamais été vraiment prise, ce qui en arrangeait beaucoup. Et permet au clan, toujours bien en place de ceux qui ont commandité ou laissé faire l'arrestation de Moulin, de revendiquer cet étendard qui ne leur appartient pas. Tout comme on les voit cyniquement récupérer Guy Moquet ou d'autres qui se battaient contre leurs idées. Il s'agit donc de les dénoncer à l'œuvre hier comme aujourd'hui. Pour établir le dossier que nous allons vous présenter, nous avons puisé à différentes sources, mais la plus importante contribution vient de l'ouvrage de Pierre Péan, La diabolique de Caluire, paru en 1999.
On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. Moi, de mes 11 ans d'altitude, je découvrais éberlué des soldatesques fatigués qui ramenaient ma belgitude. Les hommes devenaient des hommes, les gars avalaient des soldats qui faisaient ceux qui ne s'en vont pas. Et les femmes s'accrochaient à leurs hommes. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. Et voilà que le printemps flambe, les canons passaient en chantant, et puis les voilà revenant, déjà la gueule entre les jambes. Quand me repassaient en pleurant nos grands frères devenus vieillards, nos pères devenus brouillards, et les femmes s'accrochaient aux enfants. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. Je découvris le réfugié, c'est un paysan qui se nomade, c'est un banlieusard qui s'évade d'une ville ouverte qui est fermée. Je découvris le refusé, c'est c'est un armée que l'on désarme et qui doit faire chemin à pied. Une femme s'accrochait à leur larme. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre s'est réveillée. On jouait un air comme celui-ci lorsque la guerre est arrivée. D'un ciel plus bleu qu'à l'habitude, ce mai 40 a salué quelques Allemands disciplinés qui écrasaient ma belgitude. L'honneur avait perdu patience et chaque bourg connut la crainte et chaque ville fut éteinte. Et les femmes s'accrochèrent au silence.
L'arrestation de Jean Moulin est le thème de notre émission de ce jour. Tout est parti d'une femme extrêmement belle, intelligente, perverse et paranoïaque, promue agent de l'Abwehr, les services de renseignement nazis, qui manipula un résistant réputé exemplaire jusque-là et qui devint en 24 heures un traître infâme. Tout cela sur un fond de haine mortelle entre les résistants de droite de combat et ceux plus proches du PC et de gauche auxquels Moulin était assimilé. Tout cela pour la maîtrise du pouvoir sur l'ensemble de la résistance en France. Quelques années après, la guerre terminée par la capitulation des nazis, en acquittant deux fois Hardy, la politicaille de droite collaborationniste a su préserver ses agents jusqu'au bout.
Première partie, les protagonistes de l'affaire. Le personnage clé de l'affaire de Caluire du 21 juin 1943 est Lydie Bastien. Lydie Bastien est la fille de Raoul Bastien, bourgeois industriel. Elle est née à Paris le 22 août 1922 dans un contexte familial un peu troublé. Elle sera mise par sa mère dans un pensionnat religieux. Elle vivra très mal cet épisode. Il faut dire que Lydie Bastien a une forte personnalité. Elle se révélera très vite une jeune fille intelligente, brillante, séduisante, séductrice et perverse. La guerre va la délivrer de son goulag, comme elle disait très vite. Elle se lance dans une vie aventureuse. En se choisissant à la sortie du pensionnat un premier amant allemand, qui lui présentera un autre allemand de ses amis, Stengrit, beau et séduisant, qui deviendra son amant lui aussi. Il y a une photo où elle figure en Allemagne, à Baden-Baden, sans doute entre deux militaires allemands en uniforme. Elle était fière de cette photo qu'elle a montrée, mais que nous ne possédons pas. Plusieurs témoins en ont parlé et l'ont décrite en concordance, en reconnaissant Stengrit comme un de ses militaires. Lydie Bastien a, dès ce moment-là, été recrutée par les services de renseignement allemands et par la suite était envoyé à Lyon pour lutter contre la résistance. Stengrit, de son vrai nom Harry Stengret, a perdu sa mère à la naissance en 1921. Études de dessinateur, fait de la pub avec son physique d'acteur en 1936 et devient soldat en 1939. En août 1942, il devient policier GFP et est affecté à Maisons-Laffitte. Fin 42, il est au SD d'Alençon et est muté à mi-janvier 43 au SD de Lyon, à la section 6, le service qui gère les agents français, les immatricule et tient leurs fiches à jour.
Désolé bergère, j'aime pas les moutons, qu'ils soient pure laine ou en chapeau melon, qu'ils broutent leurs collines, qu'ils broutent le béton, menés par quelques chiens et par quelques bâtons. Désolé bergère, j'aime pas les moutons, Désolée bergère, j'aime pas les agneaux qui arrondissent le dos de troupeau en troupeau, de troupeau en étable et d'étable en bureau. J'aime encore mieux les loups, j'aime mieux les moineaux. Désolée bergère, j'aime pas les agneaux. Désolée bergère, j'aime pas les brebis. Ça arrive tout tordu, et ça dit déjà oui. Ça se retrouve tondu, et ça vous redit oui. Ça se balance en boucherie, et ça redit oui. Désolée bergère, j'aime pas les brebis. Désolée bergère, j'aime pas les troupeaux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur coteau, qui avancent en reculant, qui se noient dans un verre d'eau bénite, et dès que le vent se lève, montre le bas de leur dos. Désolée bergère, j'aime pas les troupeaux. Désolée bergère, j'aime pas les bergers. Désolée bergère, j'aime pas les bergers. Il pleut bergère, prends garde à te garder. Prends garde à te garder bergère, un jour tu vas bêler. Désolée bergère, j'aime pas les bergers. Désolée bergère, j'aime pas les moutons. Qu'ils soient pure laine ou en chapeau melon, qu'ils broutent leur colline, qu'ils broutent le béton, menés par quelques chiens et par quelques bâtons. Désolée bergère, j'aime pas les moutons.
René Hardy, un résistant irréprochable jusqu'au 7 juin 1943, nous dit-on. Est-ce si simple ? Hardy était en rapport et travaillait depuis longtemps pour le commissaire Richard de la section anticommuniste. Richard travaillait avec l'Abwehr 3F du Lutetia à Paris. Richard, ancien camelot du roi, ex-cagoulard, est chargé de constituer un fichier des fonctionnaires nationalistes. Richard, un proche de Darnan, après bien des méandres, il montra en 1943 un SR, service de renseignement contre les résistants communistes. Richard a déjà rencontré en 1933 le comte Creutz. Creutz, qui dans l'Abwehr 3F est chargé de pénétrer les milieux nationalistes et de chasser le communiste. Richard s'est aussitôt mis à son service dès l'été 1940 et a été sa première recrue. Une autre recrue est Talbert Beugrat, chef du SR du PPF de Doriot, basé à Lyon. Richard est l'agent Abwehr E7-122, il sera fusillé en 1948. Donc, dès fin 1942, Hardy, en contact avec le faux résistant Richard, fournissait des renseignements sur le commandement français. Le 16 janvier 1943, arrivé à Lyon de Hardy pour prendre le réseau Nap-Fer Zone Sud, et il rencontre le jour même chez André Lassagne, au 302 cours Lafayette, Freinet, patron de combat, et le général Delestrin, chef de la nouvelle AS, qui est un problème pour Freinet. 20 janvier 1943, Hardy est mis au courant de toutes les dissensions entre combat, libération et franc-tireur. Dissensions qui sont aussi les siennes. Quelles sont-elles ? Jean Moulin, représentant de De Gaulle, est chargé de coordonner et de financer via Londres une action des mouvements de résistance en zone sud. Sa vision est de vouloir unifier la résistance en réintroduisant les partis et syndicats d'avant-guerre. Jean Moulin veut aussi séparer les mouvements et les forces paramilitaires. Le général Delestrin a 63 ans, héros de la guerre de 1914-1918 et qui a refusé la défaite en 1940, a été nommé chef de l'AS armée secrète par De Gaulle en août 1942. Et il y a Henri Freinet, chef du mouvement combat, avec Bénouville dans ses valises. Bénouville, ancien cagoulard tout de même, qui tend à prendre de l'ascendant sur Freinet. ils vivent très mal la prédominance de Moulin. Et ils cherchent sciemment à le contourner en prenant contact avec les services secrets américains au printemps 43 et manœuvrent pour obtenir de Londres la récusation de Moulin et des Lestrin. Freinet partira à Londres le 17 juin à cette fin en toile de fond. La résistance de droite se bat contre la résistance de gauche et est prête à tout pour la couler, y compris bien sûr la livrer aux Allemands. Deuxième partie, la rencontre pseudo-fatale. Le 23 janvier 1943, à la brasserie des Archers à Lyon, Lydie Bastien est avec une amie et en attend une autre légèrement souffrante à une autre table. René Hardy est en train de parler avec cette dernière. Les trois filles dînent ensemble et René Hardy seul à une autre table. Mais le contact est lié et Lydie Bastien accompagne René Hardy jusqu'à une certaine distance de chez elle et prend un rendez-vous. Très rapidement, Lydie Bastien sera au courant de ses activités et lui rend des services une semaine après avoir fait connaissance. Elle est devenue sa plus intime collaboratrice de résistance. Hardy, responsable au cœur de l'armée secrète et des mouvements de résistance sud, se pavane dans les rues de Lyon avec une créature superbe qui arbore d'extravagantes tenues. Le couple évolue place Bellecour, dans les lieux fréquentés entre autres par les Allemands. René Hardy était devenu amoureux fou de cette femme, sans se poser la moindre question. Certains résistants sont choqués et inquiets. D'autres pas, comme Bénouville, qui confiera à Lydie Bastien une mission à Paris, auprès de ses copains résistants de droite et d'extrême droite qui allaient jusqu'aux proches de Laval. En avril 1943, Lydie Bastien peut se prévaloir dans son fort intérieur d'avoir au moins deux amants, René Hardy, le résistant, et Stengrit, le nazi chasseur de résistants. Par René Hardy, elle connaît à peu près tout ce qui se passe à la direction de l'armée secrète, de résistance fer, de combat et du comité directeur des murs. Pas mal pour un résistant exemplaire. Elle connaît donc aussi l'existence de Max et du général Delestrin, ainsi que l'ampleur des problèmes qui les opposent à Freinet et à combat. Elle connaît donc aussi les rapports de Hardy et ses boîtes à lettres. Avec ça, le décor est en place pour la suite.
Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat. Maudite Mathilde, puisque te voilà. Cœur, ne t'emballe pas, fais comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été, la Mathilde qui est revenue. Mon cœur, arrête de brinque-baller, souviens-toi qu'elle t'a déchiré, la Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas, non. Dites-moi, dites-moi qu'il ne faut pas, maudite Mathilde, puisque te voilà. Et vous, mes mains, restez tranquilles, c'est un chien qui nous revient de la ville, Mathilde est revenue. Et vous, mes mains, ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas, Mathilde est revenue. Ne tremblez plus, souvenez-vous quand je vous pleurais dessus, Mathilde est revenue. Vous mes mains, ne vous ouvrez pas, vous mes bras, ne vous tendez pas, sacrée Mathilde, puisque te voilà. Mère, arrête tes prières, ton chagrin retourne en enfer, Mathilde, mère.
se fait des festins. Mathilde m'est revenue. Toi la servante, toi la Maria, va tendre mon grand lit de drap. Mathilde m'est revenue. Amis, ne comptez plus sur moi, je crache au ciel encore une fois. Ma belle Mathilde, puisque te voilà, te voilà.
Troisième partie, le coup monté du 7 juin 1943. Il faut donc se débarrasser de Délestrin. Le 27 mai 1943, le général Délestrin demande à son chef de cabinet, Aubry, de demander à Hardy d'être avec lui à un rendez-vous à Paris. Aubry dicte le message non codé suivant. À Dido, Vidal te donne rendez-vous à Paris le mercredi 9 juin à 9h à la sortie du métro de la Muette. Dido, c'est Hardy. Vidal, c'est Délestrin. Le message est déposé dans la boîte à lettres de Résistance Fer, boîte grillée. L'appartement étant une souricière. Lydie Bastien prend le message et la porte à Stengrit. Il existe une autre version où Moog, 4-30, apporte l'info à Kramer de l'Abwehr. Bastien ne dit pas à Hardy le contenu de ce message, donc il ne saura pas qu'il est attendu le mercredi 9 à Paris, à la Muette, pour rencontrer Vidal. Bastien craignait une arrestation d'Hardy par la Gestapo parisienne sur laquelle elle n'avait pas de prise. Le 7 juin, Lydie Bastien fait des pieds et des mains quasiment l'impossible pour avoir un billet de train couchette pour Paris le jour même pour Hardy. Il avait rendez-vous avec Télis, le chef des groupes francs de combat. Finalement, elle obtient un billet via le directeur de l'agence Cook dans un compartiment réservé aux officiels pour être bien sûr qu'ils partent. Elle l'accompagne à la gare jusqu'au train. Mais bien qu'elle devait partir avec lui, elle ne monte pas et remet son voyage au lendemain matin. Ce qu'elle fera, et fera semblant après son arrivée de ne pas le trouver au rendez-vous prévu. En fait, elle a prévenu Stengrit du départ, et à Chalon-sur-Saône, on arrêtait Hardy, comme par hasard. Dans ce train, le traître Multon y était selon les dires de Hardy. Un fonctionnaire de Vichy, Cressol, sera arrêté en même temps que Hardy en gare de Chalon-sur-Saône. C'est donc Barbie qui réceptionne Hardy à la prison de Chalon et qui engage la conversation, trouvant très vite un interlocuteur intéressant, au point que, au lieu de l'emmener comme il était de règle à la prison de Montluc à Lyon, Hardy se fera installer dans une chambre rue Berthelot. Le lendemain après-midi, donc, dans cette chambre, Hardy donne son acceptation de collaborer en assurant Barbie de sa fidélité, de sa parole d'honneur. Et Barbie lui apprend l'arrestation de Délestrin. Là-dessus, Hardy est libéré. Le 11 juin, avec tout de même obligation de revenir coucher là tous les soirs et d'être suivi par un de ces hommes qui était Stengrit. Ce, dans l'attente de la réponse de Berlin d'être autorisé à l'utiliser sur la résistance. Et Hardy a couché là une huitaine de jours, soit vers le 15 juin 1943. Le 9 juin, Bénouville est informé de l'arrestation de Hardy par Lydie Bastien, qui lui fait savoir que, s'il ne collabore pas, elle sera arrêtée, elle, avec sa famille. Pas mal comme motif pour une agent de l'Abwehr. Bénouville lui aurait dit qu'il collabore, on verra après, mais on n'a pas de preuves. C'est juste elle qui le dit. Pendant ce temps-là, le 9 juin, à 9h du matin, Délestrin est arrêté sans problème au métro de la Muette. Le même jour, Joseph Gastaldo, alias Galibier, est lui aussi arrêté à Paris. Mais Bénouville garde l'information de l'arrestation, puis de la libération de Hardy, pour lui seul. Pourquoi ? Le 2 juin 1943, François Yves Guillain, alias Mercure, informe Tony de Graff, secrétaire permanent du bureau lyonnais du secrétariat de Jean Moulin, 6 au 1 place des Capucins à Lyon, de l'arrestation de Vidal, alias le général des Lestrains. Ce, quelques minutes avant de l'annoncer à Moulin lui-même, aussitôt Jean Moulin donne l'ordre à Mercure de ne plus avoir de contact avec ce secrétariat qui, de toute évidence, avait beaucoup de chances de se faire arrêter. Le 15 juin, Jean Moulin écrit à De Gaulle « J'ai le triste devoir de vous annoncer l'arrestation par la Gestapo à Paris de notre cher Vidal. Il n'y a pas une minute à perdre. Tout peut encore être réparé. C'est l'AS qu'il faut sauver. Dès lors, Jean Moulin veut très vite remplacer des Lestrains par un homme sûr et prévoit une réunion à cette fin. » Jean Moulin fait savoir le 19 juin par André Lassagne à Henri Aubry, alias Thomas, qu'une réunion est prévue le 21 juin pour désigner un nouveau chef de l'armée secrète. Deux candidats en lice, celui de Jean Moulin, le colonel Schwarzfeld, celui de combat, Henri Aubry. Bénouville de combat estime que Aubry tout seul ne suffira pas à défendre correctement ses chances. Il faut un autre représentant de combat, et c'est Didot. Hardy qui est choisi, alors même que Bénouville savait qu'une semaine avant... Il restait donc à Aubry à donner rendez-vous à Didot le dimanche 20 juin, place Lyautey, pour l'inviter à venir à cette réunion, sans rien en dire donc à André Lassagne et partant à Moulin, qui en aura la surprise le 21. Dès lors, Hardy allait pouvoir annoncer à Barbie la tenue prochaine d'une importante réunion de résistants. Quatrième partie. Le dimanche matin 20 juin 1943, place Lyautey, il y avait du monde. Déjà Gaston Defer de la SFIO, la secrétaire d'Aubry, Madame Raisin, alias Mad ou Petite Mad, René Hardy, alias Didot, était là. Un moment, Aubry demanda à Madame Raisin de remettre à Didot les 200 000 francs alloués au titre de résistance fer. Puis de faire partie. Aubry est un peu inquiet de la présence d'un homme lisant son journal sur un banc. C'était Barbie. Un peu plus loin, un autre quidam était appuyé contre un arbre. C'était Stengrit, qui physionomait, un peu plus loin encore, une extravagante nana avec un énorme chapeau. C'était Lydie Bastien, qui, paraît-il, devait servir, selon ses dires postérieurs, de balise de repérage pour Barbie, sans compter Moog, alias K-30, qui d'un peu plus loin surveillait la scène. Ça fait tout de même beaucoup d'agents de l'Abwehr au mètre carré pour une rencontre aussi intime. Aubry finalement refuse de parler là et emmène Hardy déjeuner dans un restaurant. Aubry dit à Hardy d'être présent place Croix-Paquet le lundi 21 juin à 13h40. André Lassagne devait, lui, arriver à 13h45. Tout est alors en place pour la journée du 21 juin 1943. Cinquième partie. Le 21 juin 1943, la journée de la musique des traîtres. Le 21 juin au matin, Lydie Bastien quitte Lyon pour emmener de l'argent à Limoges. De la Traze, Enmé, agent double, qui était à Lyon, est convoqué à la Gestapo, à l'hôtel Terminus, au début de matinée, vers 10h, où on lui explique sa mission du jour. Qui est cet Enmé de la Traze? Elle travaillait pour le colonel Groussard, le réseau Gilbert, qui dirigeait depuis Genève un réseau de renseignements lié à l'intelligence service. Arrêtée par les Allemands, elle est alors obligée de pointer à la Gestapo à chacun de ses déplacements. À Lyon, elle devient de fait un agent double. On lui indique alors qu'elle doit se rendre à l'école de santé avenue Berthelot, où Didot doit lui être présenté à 11h30. Elle estime qu'il lui reste alors une bonne heure pour prévenir les résistants. Elle se rend à la boucherie Plateau, rue Moncey, où elle sait que Jean Cambus, autre argent de Broussard, doit passer. Ne pouvant le joindre, elle laisse à la boucherie une lettre avec toutes les indications qu'elle connaît. En insistant sur la trahison de Didot, elle estime et espère alors que l'après-midi, il n'y aura personne d'autre que Didot à la réunion. Doutant quand même, elle va au service de la Croix-Rouge, avenue Foch, au 52, et est reçue par un adjoint du capitaine Mena, le commandant Labrosse, à qui elle explique la situation et file à l'école de santé. À la Gestapo, on lui dit qu'elle doit suivre l'après-midi Didot qu'on va lui présenter et revenir dire où il a été. Didot lui est présenté comme un agent double lui aussi. On lui dit qu'il s'agit d'une réunion des chefs de l'armée secrète que l'on va arrêter. À la Gestapo, elle dit avoir vu Hardy, et les Allemands de la Gestapo en parfaite harmonie, elle dira même avoir eu l'impression que Didot collaborait avec les Allemands depuis déjà un certain temps. Les Allemands expliquent à Hardy, devant elle, qu'ils lui passeront des menottes factices dont il pourra se libérer. À la réunion du matin à la Gestapo, Barbie met au point avec Hardy et Stengrit le scénario des arrestations de l'après-midi. Il est convenu que Stengrit devra s'occuper personnellement de Hardy et à un moment donné, le laisser s'échapper et tirer quelques coups de feu sans l'atteindre. 13h30, tout commence. Lacaze, colonel du 4e bureau, arrive chez le docteur Dugoujon et Marguerite, l'employé, le dirige dans la salle du premier étage. 13h40, place Croix-Paquet. André Lassagne voit arriver Henri Aubry, flanqué de René Hardy. André Lassagne est très irrité de voir là Hardy, qu'il n'attendait pas. Celui-ci argumente d'une information qu'il avait à communiquer à Max, ce qui était faux. Mais Lassagne accepta l'argument. Pas loin derrière, il y avait la dame au corsage rouge, Edmé Delatraze, qui attendait pour suivre Hardy. Avant de monter dans le funiculaire, Hardy déclara qu'il avait un agent de liaison à voir au petit café à l'angle de la rue des Feuillants. Un peu avant 14h, au terminus de la ficelle, Hardy et Aubry prennent le tram 33 vers Caluire, avec Edmé Delatraze, bien sûr. Lassagne suit, qui précède à vélo et fait signe de descendre à Caluire. Les trois arrivent juste après 14h chez le docteur Dugoujon, place Castellane à Caluire. Edmé Delatraze voit Hardy entrer dans la maison Dugoujon et revient place Croix-Paquet, où l'attendent les hommes de Barbie. Quelques minutes après arrive le jeune Bruno Lara, alias Xavier, nouveau chef du COPA, centre d'opération de parachutage et d'atterrissage. Il est dirigé par le docteur Dugoujon au premier étage. Et vers 14h10, Raymond Aubrac, alias Valet, et Jean Moulin, alias Max, arrivent place Croix-Paquet et prennent la ficelle. Arrivés en haut du funiculaire, ils doivent retrouver Schwarzfeld, membre de l'AS, cofondateur de France d'abord. Mais il est en retard et Moulin et Aubrac doivent l'attendre une demi-heure avant de prendre le tram 33. De ce fait, ils arriveront un peu avant 15h chez le docteur Dugoujon et seront, par erreur, dirigés dans la salle d'attente du médecin au rez-de-chaussée. Hardy, suivant ses consignes, avait dès son entrée dans la maison marqué à la craie les portes et passages à travers lesquels il avait été guidé jusqu'au premier étage. Edmé Delatraze remonte avec les nazis en voiture, ne voit rien devant la maison, elle espérait y trouver Hardy, abattu par des résistants. Elle les amène plus loin, les trimballe un peu pendant un quart d'heure, et comme il s'énerve, finalement, doit revenir vers la maison Dugoujon. Les nazis laissent leur voiture à distance, partent à pied, et elle revient rue Berthelot, comme on lui a dit de le faire. La maison Dugoujon est isolée, facile à cerner. Barbie entre, accompagnée de Stengrit et Wenzel, en suivant les croix laissées par Hardy. Il arrive directement dans la salle de réunion. Il tire un coup de pistolet dans le plafond pour ménager l'effet de surprise. Tout le monde est à terre. Il repère de suite Hardy et se met à interroger et fouiller les personnes qui donnent leur pseudo. Puis il les interroge une à une. Et le tour d'Hardy venant, celui-ci lui donne les véritables identités de chacun. Et lui fait remarquer qu'il est arrivé un peu tôt, la réunion n'étant pas commencée. À ce moment, Hardy pouvait se taire. Car Barbie a reconnu plus tard que sans son précieux concours, Moulin lui aurait peut-être échappé. En effet, Hardy lui indique qu'on attendait encore Moulin et que peut-être il était dans la salle d'attente en bas. Pendant ce temps, Moulin et Aubrac en profitèrent pour avaler quelques papiers secrets. Barbie descend et fait monter les trois résistants qui y étaient présents, Moulin, Aubrac et Schwarzwald, sans qu'il les identifie encore. C'est Hardy qui lui indiquera Moulin. Les interrogatoires individuels seront menés dans la salle à manger à coups de pied de table. Ensuite, les personnes arrêtées ont été conduites dans les voitures, Stengrit s'occupant de Hardy. Arrivé près de la voiture, Stengrit lance l'os à Hardy et celui-ci, conformément au scénario prévu, s'échappe. Tous les Allemands présents étaient prévenus et ne devaient donc pas intervenir autrement qu'en tirant en l'air. Sauf que cet imbécile de chauffeur de Barbie, Bartel, oubliant la consigne, se met à tirer sur Hardy, mais le manque. Il se fait alors copieusement engueuler par Barbie, qui encore dans la maison suivait tout cela depuis les fenêtres de la salle de réunion. Ensuite donc, en deux voyages, tous les prisonniers sont transférés avenue Berthelot.
De chrysanthème en chrysanthème, nos amitiés sont en partance. De chrysanthème en chrysanthème, la mort potence nos dulcinées. De chrysanthème en chrysanthème, les autres fleurs font ce qu'elles peuvent. De chrysanthème en chrysanthème, les hommes pleurent, les femmes pleurent. J'arrive, j'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois traîner mes os jusqu'au soleil, jusqu'à l'été, jusqu'au printemps, jusqu'à demain. J'arrive, j'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois voir si le fleuve est encore fleuve, voir si le port est encore port, m'y voir encore. J'arrive, j'arrive, mais pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi déjà, et où aller? J'arrive, bien sûr, j'arrive, mais je n'ai jamais rien fait d'autre qu'arriver. En chrysanthème, à chaque fois plus solitaire. De chrysanthème en chrysanthème, à chaque fois surnuméraire. J'arrive, mais quelle est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois prendre un amour comme on prend le train pour plus être seul, pour être ailleurs, pour être bien. J'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois remplir d'étoiles un corps qui tremble et tomber mort, brûlé d'amour, le cœur en cendres. J'arrive, c'est même pas toi qui en avance, c'est déjà moi qui suis en retard. J'arrive, bien sûr j'arrive, mais je jamais rien fait d'autre qu'arriver.
Est le héros de la résistance hardie pendant ce temps-là. Il a fui et s'est planqué dans les fourrés, là où le cantonnier Rougis le voit, sitôt que les Allemands s'arrêtent de faire semblant de le chercher, le voilà qui dévale la montée Castellane en direction de la Saône, en faisant un détour par l'hôpital de la Croix-Rousse sous administration allemande. Là où il s'est trouvé le sous-officier sanitaire Brackmann, qui va lui faire une blessure propre, c'est-à-dire sans briser l'os et sans atteindre les nerfs, par une balle dans le bras tirée à moins de 40 centimètres. Là-dessus, le voilà reparti en direction d'un lieu où il pense trouver Bénouville ou Claude Bourdet ou sa secrétaire. Il croise deux cyclistes, en avise un, demande de l'aide et en attendant l'arrivée d'un médecin, entre, comme par hasard, chez Madame Damas, où il a passé la nuit précédente avec Lydie Bastien. Le cycliste estime judicieux de prévenir aussi un policier français, et voilà Hardy qui se retrouve à l'Anticaille sous garde policière française. Le lendemain, il écrit à Lydie pour lui demander, sans panique, de faire intervenir en sa faveur un certain nombre de personnalités et d'autorités, dont Ménétrel. Le médecin est conseiller privé de Pétain, rien de moins. Elle ira même dans ses démarches parisiennes jusqu'à se retrouver dans le bureau de Laval, qui lui dira « Ah, je vais essayer de me renseigner auprès de Bousquet. » Un deuxième personnage pose problème, c'est Henri Aubry, qui, semble-t-il, dans le meilleur des cas, s'est mis à table sitôt arrêté. Ses confidences, objet d'un long rapport nazi, ont permis de nouvelles arrestations. D'aucuns pensent qu'il était dans le coup avant. Il aurait rencontré un agent de l'Abwehr le 9 juin à Lyon. Et Lydie Bastien a dit que Barbie, pas entièrement sûr de Hardy, voulait doubler ses chances. Henri Aubry ne mourra pas sous les tortures de Barbie. Il sera libéré rapidement. Sixième partie. Et après, fin juin 1943, Hardy est transféré à l'hôpital allemand de la Croix-Rousse où il est traité, selon des Allemands qui lui rendèrent visite, comme un coq en pâte. Barbie et Stengrit vont prendre de ses nouvelles et lui parlent de la collaboration qu'il peut encore leur apporter. Lydie Bastien, pendant cette période, rencontre à nouveau Stengrit, l'ange gardien de son fiancé. Et dans la nuit du 2 au 3 août, Barbie, accompagnée de Stengrit, vient l'extraire en voiture de l'hôpital pour le conduire chez sa fiancée. Quel chanceux ce Hardy! On parla alors d'une évasion. Barbie lui donne tout de même rendez-vous deux jours après, Hardy recevra une belle somme d'argent, grassement payée, dira Lydie, une carte d'identité, et pour elle un lot de bijoux provenant sans doute des extorsions aux Juifs déportés. Hardy se sauve aussitôt à Clermont-Ferrand, où Lydie Bastien le rejoint, et le couple maudit file sur Limoges, puis sur Sarlat. En janvier 1944, les deux tourtereaux montent à Paris et s'installent chez Tante Suzanne, l'amie d'enfance de Lydie Bastien, avenue de la Motte-Piquet. Ils vont y passer 2 mois et demi, menant bonne chère, en allant acheter leur alimentation chez Fauchon et Édiard, sans jamais en faire profiter leurs hôtes qui mangeaient au ticket. En avril, le couple maudit loge chez la comtesse de Montangon, 52 avenue Bosquet à Paris. Fin mai 1944, ils filent vers l'Algérie via l'Espagne et le Maroc. Hardy y rencontre Multon, qui, fatigué de tout ça, a envie de raconter sa trahison à Freinet. Hardy le supplie de se taire sur tout ce qui s'est passé à Lyon à cause des doutes qui pèsent sur lui, promesses faites et tenues. À Alger, il rencontre Freinet et Bénouville, tout baigne. En juin 1944, Freinet fait tout de même passer Hardy par la sécurité militaire. Résultat, le colonel Payol le blanchit et l'embauche au commissariat aux prisonniers. Fin août 1944, Freinet est nommé ministre des prisonniers déportés et réfugiés, avec Hardy comme directeur des services techniques, revient à Paris, avec Hardy dans ses valises. Lydie Bastien, quant à elle, s'arrangera pour faire un retour à Paris avec un ordre de mission de De Gaulle. Le 12 décembre 1944, Hardy est arrêté à son ministère. En présence de son ex-adjoint René Lacombe, sur ordre de Soustelle, patron de la DGER, il ne se révolte pas et dit seulement « Je ne veux pas aller en prison ». À partir de là, je ne détaille plus. Il y aura un premier procès à Hardy qui s'ouvre le 20 janvier 1947. Le 24 janvier 1947, Hardy est acquitté sous les applaudissements du public, le président étant par ailleurs acquis à l'accusé. Ce procès a été truffé de faux témoignages, aujourd'hui révélés. Le 27 mars 1947, Hardy est à nouveau arrêté. Juste avant le procès a été organisée en prison une rencontre Hardy-Stengrit observée par Teleri. Il s'avérera que c'était pour se mettre d'accord. Et le lendemain au procès, Stengrit mentira à tout va. Il lui fallait sauver en fin de compte un confrère qui ne lui renverra jamais l'ascenseur. Et Stengrit en sera très amer au moment de ses propres ennuis. En mai 1950 a lieu le deuxième procès Hardy, dont il sortira encore acquitté. Avant le premier procès Hardy, Lydie Bastien, qui organisait la défense, était venue voir le docteur Dugoujon, qui lui a déclaré d'entrée de jeu que pour lui, à ses yeux, Hardy était coupable et méritait 12 balles dans la peau. Voilà le vrai verdict énoncé, dont la sentence n'a jamais été exécutée. Hardy meurt dans son lit dans la nuit du 12 au 13 avril 1987 à Mel en Vendée.
J'aimerais tenir l'enfant de Marie qui a fait graver sous ma statue. Il a vécu toute sa vie entre l'honneur et la vertu. Moi qui ai trompé mes amis de faux serments en faux serments. Moi qui ai trompé mes amis du jour de l'an au jour de l'an. Moi qui ai trompé mes maîtresses de sentiment en sentiment. Moi qui ai trompé mes maîtresses du printemps jusqu'au printemps. Ah, cet enfant de Marie, je l'aimerais là et j'aimerais que les enfants ne me regarde pas. J'aimerais tenir l'enfant de carême qui a fait graver sous ma statue. Les dieux rappellent ceux qu'ils aiment, et c'était lui qu'ils aimaient le plus. Moi qui n'ai jamais prié Dieu que lorsque j'avais mal aux dents. Moi qui n'ai jamais prié Dieu que quand j'ai eu peur de Satan. Moi qui n'ai prié Satan que lorsque j'étais amoureux. Moi qui n'ai prié Satan que quand j'ai eu peur du bon Dieu. À cet enfant carême, je l'aimerais là et j'aimerais que les enfants ne me regarde pas. J'aimerais tenir l'enfant de salaud qui a fait graver sous ma statue. Il est mort comme un héros, il est mort comme un morpelu. Moi qui suis parti faire la guerre parce que je m'ennuyais tellement. Moi qui suis parti faire la guerre pour voir si les femmes des Allemands. Moi qui suis mort à la guerre parce que les femmes des Allemands. Moi qui suis mort à la guerre de n'avoir pu faire autrement. Ah, cet enfant salaud, je l'aimerais là et j'aimerais que mes enfants ne me regarde pas.
Et les autres, que sont-ils devenus? Lydie Bastien meurt dans son lit le 25 février 1994. Auparavant, elle aura continué une brillante carrière d'escroc illuminé, de trafiquante d'armes, d'espionne au solde multiple, KGB, CIA, et j'en passe, etc., etc. Barbie, dès 1945, il devient agent CIC, service secret US en Allemagne, qui lutte contre les communistes. Il est l'agent X-3054 du CIC Munich. Après bien des aventures, on finira par aller le cueillir en Bolivie en 1983. Il décédera, jugé et emprisonné, mais dans son lit le 25 septembre 1991. Richard sera fusillé en 1948. Stengrit sera condamné à mort le 25 novembre 1954 et gracié 15 ans après. De Bénouville est mort dans son lit le 4 décembre 2001. Le général de Lestrin, déporté, sera abattu d'une balle dans la tête le 19 avril 1945 à Dachau. Et les participants à la réunion de Caluire? Raymond Aubrac est toujours vivant après bien des péripéties, entre autres sa libération le 21 octobre 1943 par une action de la résistance avec son épouse. Il continue d'œuvrer pour la résistance sous toutes ses formes.
Aujourd'hui, 24 juin 2013, bien sûr, nous devons dire que Raymond Aubrac est décédé le 10 avril 2012, après que son épouse Lucie Aubrac ait disparu le 14 mars 2007. En ce qui concerne Henri Aubry, il a été libéré le 12 décembre 1943. Il a été à la Libération directeur au ministère des prisonniers, déporté et réfugié sous la direction de Freinet. Il avait parlé sous la torture, c'est Raymond Aubrac qui le rapporte parce qu'il le lui a avoué en prison. Il est décédé le 10 novembre 1970.
André Lassagne, déporté à Natzwiller, est décédé le 4 avril 1953 après avoir été sénateur. Colonel Lacaze survivra à ces événements. Bruno Lara, né en 1916 à Romans, décédera à 28 ans, en avril 1944, au camp de Dora. Le colonel Schwarzfeld, déporté à Natzwiller, y laissa sa vie. Jean Moulin, torturé par Barbie à Lyon, décédera à Metz durant son transfert à Berlin, le 8 juillet 1943.
Regarde bien, petit, regarde bien. Sur la plaine, là-bas, à hauteur des roseaux, entre ciel et moulin, il y a un homme qui vient que je ne connais pas. Regarde bien, petit. Regarde bien, est-ce un lointain voisin
un voyageur perdu en revenant de guerre, un montreur de dentelle et son abbé porteur de ces fausses nouvelles qui aident à vieillir. Est-ce mon frère qui vient me dire qu'il est temps d'un peu moins nous haïr, ou n'est-ce que le vent qui gonfle un peu le sable et forme des mirages pour nous passer le temps? Regarde bien, petit, regarde bien. Sur la plaine, là-bas, hauteur des roseaux, entre ciel et moulin, y a un homme qui vient que je ne connais pas. Regarde bien, petit, regarde bien. Ce n'est pas un voisin, son cheval est trop fier pour être de ce coin, pour revenir de guerre. Ce n'est pas un abbé, son cheval est trop pauvre pour être paroissien. Ce n'est pas un marchand, son cheval est trop clair, son habit est trop blanc, et aucun voyageur n'a plus passé le pont depuis la mort du père, ni ne sait nos prénoms. Regarde bien, petit, regarde bien. Sur la plaine, là-bas, hauteur des roseaux, entre ciel et moulin, y a un homme qui vient que je ne connais pas. Regarde bien, petit, regarde bien. Non, ce n'est pas mon frère, son cheval aurait pu. Non, ce n'est pas mon frère, il ne l'oserait plus. Il n'est plus rien ici qui puisse le servir. Non, ce n'est pas mon frère, mon frère a pu mourir. Cette ombre de midi aurait plus de tourments s'il s'agissait de lui. Allons, c'est bien le vent qui gonfle un peu le sable pour nous passer le temps. Regarde bien, petit, regarde bien. Sois pleine là-bas, à hauteur des roseaux, entre ciel et moulin, y a un homme qui part, que nous ne saurons pas. Regarde bien, petit, regarde bien. Il faut sécher tes larmes. Y a un homme qui part, que nous ne saurons pas. Tu peux ranger les armes.
Vous avez pu entendre au fil de cette émission une série de chansons interprétées par Jacques Brel. Il s'agissait de Mai 40, l'introduction de La Colombe, Les Moutons, Mathilde, J'arrive, La Statue et Regarde bien petit. Les paroles et musiques de toutes les chansons que vous avez entendues sont de Jacques Brel, sauf la musique de J'arrive, qui est co-signée Jacques Brel, Gérard Joannest, et la musique de La Statue, signée de François Robert. Nous remercions chaleureusement André Bonhomme, qui a bien voulu prêter sa voix au texte de cet essai écrit par nos soins pour cette émission, qui, nous vous le rappelons, a été diffusée une première fois le 6 octobre 2008. Bonsoir. Thank you.
Thank you.